Nous vous présentons sous cette bande magnétique un message du prophète William Marion Branham intitulé « Le roi rejeté ». Ce message a été prêché le 15 mai 1960 dans le Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Le texte de ce message est un texte intégral. Voici donc le message de Frère Branham. Que la gloire du Seigneur descende sur nous aujourd'hui par l'audition de la parole. Cette dernière semaine, j'ai été quelque peu indisposé. Pas exactement malade, c'est un examen que j'ai dû subir, un examen médical. Et c'est pourquoi vous avez entendu dire que j'étais à l'hôpital. C'est pour cela que j'y suis allé. Ils vous examinent le haut et le bas de l'estomac et toutes les 5 minutes, ils vous examinent au rayon X. Nous devons subir ces examens tous les 6 mois si nous faisons des missions outre-mer. Frère Oral Roberts et les autres, je crois, subissent les leurs tous les 6 mois. Mais je n'en avais pas subi un depuis 4 ans. L'ennui, c'est que je n'aime pas l'huile de foie de morue. C'est le seul ennui. Et ils disent qu'ils ne peuvent rien vous donner pour la remplacer. Oh, j'ai tellement mal au cœur quand ils me donnent cette huile. Vous le savez, je vous l'ai dit en vous racontant l'histoire de ma vie. Vous savez combien ce médicament me rend malade et combien je déteste en prendre. Et j'ai dit à mon aimable ami le docteur, « N'y a-t-il pas autre chose ?» Il m'a répondu, « Je ne crois pas, pasteur Branham. » Oh, quand l'infirmière est entrée avec l'huile, on aurait dit, j'exagère peut-être, mais on aurait dit qu'il y en avait 1 demi-litre. Je n'en avais jamais vu autant, et je me suis bouché le nez, mais j'ai fini par l'avaler. Mais maintenant que toute cette épreuve et tout ce par quoi j'ai dû passer est terminé, je vais remercier le Seigneur pour cet examen parfait. J'ai été reconnu bon à 100%. Je peux aller dans n'importe quelle partie du monde où je veux aller. J'ai demandé aux docteurs qui étaient 3 des meilleurs spécialistes, je crois, à Louisville, et je leur ai demandé, ai-je au moins 10% d'invalidité? Ils ont répondu, vous n'avez pas la moindre indisponibilité. Ils ont dit, vous êtes complètement en parfaite santé, et j'en suis si reconnaissant à Dieu. Mais quel autre, excepté notre Père Céleste, pourrait me donner cette bonne santé? Et ils ont ajouté, toute votre circulation montre que vous êtes jeune, et vos cellules sanguines n'ont subi aucune sorte d'altération. Vous êtes en pleine forme, pasteur Branham. Et j'ai dit, eh bien, je suis très content. J'ai eu le privilège de parler et de rendre témoignage du royaume de Dieu à chaque infirmière et à chaque médecin de cet hôpital, et en particulier à un certain médecin. Je crois qu'il doit venir ici ce matin. Je suis heureux de voir qu'il existe encore un homme charitable dans ce monde, un homme véritable, un homme qui pendant 5 jours de suite m'a fait subir un examen médical dont chacun aurait probablement coûté 200 ou 300 $. Et quand j'ai eu fini, ils ont dit, c'est notre contribution à votre œuvre pour le Seigneur. Vous nous gênez beaucoup en nous demandant si vous nous devez quelque chose. Priez simplement pour nous. Ils dirent, nous sentons en nous-mêmes quelque chose comme un sentiment particulier. Nous ne pouvons pas comprendre. Cela n'a pas l'air d'être nerveux. Extérieurement, nous ne sommes ni troublés ni nerveux. Mais en nous-mêmes, il y a un sentiment que nous ne pouvons pas comprendre. Je dis, si vous voulez vous asseoir ici un moment, je vais vous l'expliquer. Et je leur ai parlé des visions. C'était une chose tout à fait nouvelle pour eux. Ils ne connaissaient rien sur ce sujet. Et je leur ai parlé de la Bible. Puis je leur ai parlé de la vision que le Seigneur m'avait donnée l'autre jour. Et ils pleurèrent comme des enfants. Ils étaient là, assis et pleuraient. Je leur dis, j'espère que vous ne me considérez pas comme un religieux détraqué. Ils ont répondu, en aucune façon, pasteur Branham. Nous le croyons de tout notre cœur. Mais nous voulons simplement dire une chose. Vous n'allez pas à l'école pour apprendre ces choses-là. Alors nous croyons qu'elles viennent du Dieu Tout-Puissant. Et ils étaient 3 médecins éminents de Louisville, les meilleurs de la ville. Aussi étais-je très heureux de cela et de savoir que peut-être le Seigneur me permettrait de semer la bonne parole dans ce milieu. Toutes les infirmières m'ont parlé. Un matin, en sortant de la salle de radiographie, je regardais une pauvre vieille femme. Elle avait l'air si malade. Je continuais à avancer jusqu'à ce que j'arrive à elle. Je pensais qu'elle était sur le point de mourir, et je lui dis, « Je vais vous demander quelque chose, ma sœur. »« Oui, monsieur, » dit-elle, « êtes-vous chrétienne ?» Elle répondit, « J'appartiens à telle église. » Et je dis, « Je veux simplement un peu plus de précision. Je veux savoir si vous êtes chrétienne, vraiment chrétienne. Si vous quittiez cette vie pour aller dans l'au-delà, l'aimez-vous ? Seriez-vous réellement sauvée ?» Elle répondit, « Oui, monsieur, je le serai. » Et je dis, « Dieu vous bénisse alors. Quoi qu'il arrive, vous êtes sauvée alors du moment qu'il en est ainsi. » Et si nous regardons bien, il reste encore beaucoup de gens merveilleux dans le monde. Aujourd'hui, j'ai eu une vision dont je vous parlerai un peu plus tard, car je voudrais parler d'abord de la parole, parce que je crois que la parole est essentielle, la chose la plus essentielle. Maintenant, je suis heureux de voir Charles Cox et frère Jeffries, mes amis debout là ensemble, et beaucoup d'entre vous, chers frères de Géorgie de différentes parties du pays. Aussi mon vieil ami Bill, je crois que c'est lui, assis là ce matin, et également le frère de Géorgie, là, ainsi que les gens qui m'ont donné ce complet. Vous savez, c'est un des meilleurs costumes que j'ai jamais porté. Il est si confortable, il est vraiment très beau, et je tiens tellement à vous. Quand je vous aurai dit ce qui m'est arrivé ces derniers jours, vous comprendrez pourquoi je pense que cela a tellement d'importance pour moi. Maintenant, je crois que si le Seigneur le veut, je désire combattre plus ardemment que jamais, parce que j'ai découvert que naturellement, je peux mourir aujourd'hui. Vous ne le savez pas, les électrocardiogrammes et tout cela, 16 radiographies différentes, un examen médical complet, ont montré que j'étais aussi normal qu'aucun être humain vivant sur cette terre pouvait l'être. Aussi, je remercie Dieu pour cela. Mais toutes ces choses et tout le reste dont je remercie Dieu et dont je le suis très reconnaissant me font conclure qu'il me garde encore à son service. Car ce n'était pas ce qu'il m'avait montré peu de temps auparavant, vous voyez. C'est pour cela que j'ai été si heureux. Maintenant, je pense ce soir que c'est très bien. Ainsi, n'est-ce pas? Notre cher frère Neville n'est pas un homme égoïste. Et si quelqu'un d'entre vous était ici dimanche dernier et a entendu ce merveilleux message qu'il nous a donné, le vase d'huile, c'est un des messages les plus extraordinaires que j'ai jamais entendu. Ce message que le frère Neville, inspiré par le Saint-Esprit, a donné dimanche dernier à ce petit troupeau de brebis que Dieu a réuni ici. Et si tout va bien, et s'il plaît au Seigneur, avec le frère Neville et l'Église, je veux encore parler ce soir et commencer une série de réunions. Disons, dimanche soir, mercredi soir et dimanche prochain, une série de réunions sur ce que j'ai étudié. Je n'aurais pas voulu rester là-bas dans cet hôpital, mais ils étaient si bons pour moi. Ils m'ont donné une chambre à environ le tiers du prix normal, et alors j'ai pris mes bibles, mes livres, j'ai quitté le lit, et je me suis assis avec toutes mes bibles et mes choses tout autour de moi, et j'étais vraiment heureux, jusqu'au moment où ils ont apporté cette huile de foie de morue. Ma joie s'est arrêtée exactement à ce moment-là, c'était fini. Mais frère Pat, j'étais vraiment malade. Je n'ai jamais pu supporter ce médicament. Mais les 3 ou 4 premiers jours, j'ai vraiment été heureux. J'étais heureux et j'étudiais l'épître aux Éphésiens. Oh, cet établissement de l'Église. Je crois que c'est une chose magnifique. Maintenant, si vous avez une église où vous avez l'habitude d'aller, vous y allez et vous vous tenez à votre poste de devoir. Mais si vous n'avez pas d'église et voulez revenir ce soir, mercredi soir et dimanche soir, j'aimerais commencer ce soir par le premier livre des Éphésiens et mercredi soir le 2e chapitre des Éphésiens et dimanche prochain le 3e chapitre des Éphésiens pour expliquer ce qu'est l'église. Vous voyez ce que je veux dire? La situer, expliquer sa position, et je pense que c'est constructif pour l'Église. Maintenant, je ne dis pas cela aux croyants du Branham Tabernacle, mais si l'un d'entre vous, chers frères, je sais que quelques-uns d'entre vous ont des réunions, nos petits frères à Sellersburg et d'autres ont des réunions, comprenez bien, ce sont des réunions de réveil, vous y allez, ils sont les serviteurs de Christ. Ce sont des hommes jeunes qui sont sur la brèche qui vont de l'avant. Et même quand leur propre Église a nié la vérité ou d'autres choses de ce genre, ils s'en sont immédiatement écartés. Dieu les a appelés au ministère. Oui, monsieur, j'admire entre tous un homme. J'ai même son nom dans la tête. C'est un homme jeune, beau, élégant. Il a une jolie femme et des enfants. C'est le frère Juni Jackson qui tient des réunions ici. C'est un autre exemple remarquable et étonnant de l'extraordinaire grâce de Dieu. Et quand il donne des réunions spéciales dans vos églises, vous devez y aller. C'est ce qu'il vous faut faire, parce que vous ne savez pas, mais peut-être un pécheur viendra-t-il à Dieu et vous pourriez l'aider et conduire cette personne à Christ, ce qui vous vaudrait une grande récompense de l'autre côté. Ceci simplement pour vous instruire et définir l'assemblée ici au tabernacle et vous aider pendant votre route. Maintenant, je n'ai pas porté ma montre, aussi quelqu'un devra regarder l'heure pour moi. Donc, vient de me faire signe qu'il en avait une. Maintenant, je ne vais pas parler très longtemps. S'il y a des étrangers dans nos murs, nous les accueillons certainement de tout cœur. Vous êtes les bienvenus ici dans ce petit tabernacle. L'édifice n'est pas très beau, nous envisageons d'en construire un autre, pas un grand, simplement un plus spacieux. Celui-ci est un peu en ruine, et nous allons essayer de nous construire une petite église confortable ici, dès que le Seigneur nous permettra de le faire. Et beaucoup d'entre vous font tout ce qu'ils peuvent pour cela, et nous leur en sommes très reconnaissants. Maintenant, je veux que vous vous joigniez à moi ce matin dans la lecture du premier livre de Samuel, le chapitre 8. Nous commencerons au verset 19, les versets 19 et 20. Peut-être un petit texte pour nous. Et maintenant, quand vous l'aurez trouvé, nous allons le lire et puis nous prierons Dieu. Et s'il y a des requêtes ce matin, dites « Souvenez-vous de moi ». Dites donc, à propos, pendant que vous cherchez le passage, les réunions commencent le 6 dans le Chautauqua. Nous nous attendons à un grand succès à Middletown, Ohio. Vous qui allez bientôt être en vacances, venez, il y a là un grand camp au bord de la rivière. Vous entendrez toutes les prédications que vous ayez jamais entendues. Nous serons tous là, tout au long de la rivière, des prédications tous les matins et toute la journée et toute la nuit. On se réunira tous ensemble. Il y a un grand terrain de camping, beaucoup plus grand que Silver Hills, et un grand espace où nous pouvons mettre de 8 à 10 000 personnes. Et c'est toujours plein. Nous avons de grandes réunions en Ohio. Et le vieux frère Kidd, pour qui je suis allé prier l'autre matin, vous vous rappelez tous ce que je vous ai dit il y a 3 semaines. Le docteur ne lui donnait plus que 24 heures à vivre. Eh bien, il est debout, il va de tous côtés. Il a lu l'écriture et chanté les cantiques qu'il ne pouvait pas chanter. Et quand je suis entré et que je l'ai regardé l'autre matin avec un petit châle sur lui, j'étais parti d'ici vers 3 ou 4 heures du matin afin de le voir. On m'a dit qu'il mourait ce jour-là, un cancer de la prostate. Et sa chère petite femme faisait des lessives pour 50 cents par jour. Et cela, dès avant le lever du jour, jusqu'après la nuit tombée, pour 50 cents, pour que son mari puisse continuer à prêcher. Il a fait une retraite de 2 semaines. Il y a eu une collecte de 80 cents. Mais je les ai vus assis, là, l'autre matin, ces deux vieux petits couples, ou plutôt ce vieux petit couple, et lui avec son petit châle sous ses épaules. Mais alors, un vrai croyant, âgé de 92 ans, est toujours aussi gaillard, gai et pentecôtiste jusqu'au fond du cœur, assis là. Et je leur ai dit, « Alors, vous les vieux, pourquoi êtes-vous assis là dehors? Nous attendons que le bateau vienne nous prendre. » Ils ont accompli toutes leurs tâches, ils ont atteint leur but, et ils sont prêts maintenant pour recevoir leur récompense. Et ce matin-là, j'ai dit à Frère Kidd, « Vous serez à la réunion de Chautauqua ?» Il m'a appelé hier et il m'a dit, « Je serai là, Frère Branham. » C'est magnifique. Beaucoup de réunions dans le cadre de mon nouveau ministère vont avoir lieu. Un frère est ici présent, un frère Baptiste. Sa fille, une jeune fille, était quelque peu fantasque, et je lui ai dit l'autre matin, « Je consacre votre fille au Seigneur Jésus. » Et quand il est rentré chez lui, elle était sauvée. Et l'autre, ici, doit être baptisé ce matin. Et un homme, M. Sofman, un de mes amis du Canada, avait sa belle-mère mourante. Je lui dis, « En rentrant, vous allez trouver votre belle-mère en forme et en voie de guérison, et tout ira bien. Et il en fut ainsi. Ce n'est que le début maintenant, cela commence bien. Mais, oh, nous avons de très très grandes espérances. Nous sommes dans les derniers jours, mais à une heure glorieuse. Maintenant, êtes-vous prêt pour la lecture? Le chapitre 8 de Samuel. J'ai promis à Jeanne de rester ici. Bon, nous allons maintenant commencer notre réunion. Néanmoins, le peuple refusait d'obéir à Samuel. Et ils dirent, non, nous voulons avoir un roi pour nous gouverner. Que nous soyons comme toutes les nations, et que notre roi puisse nous juger et marcher à notre tête et se battre avec nous. Et Samuel entendit toutes les paroles du peuple, et il les répéta au Seigneur. Et le Seigneur dit à Samuel, « Écoute-les et donne-leur un roi. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël, « Allez, chacun de vous dans cette cité. » Maintenant, si je voulais essayer de choisir ce matin ce que j'appellerais un thème pour cette soirée, ce serait « Le roi rejeté ». C'était une époque où, comme d'ailleurs à toutes les époques, ce peuple ne voulait pas que Dieu les conduise. Ils ne l'ont jamais voulu. Ils voulaient un chef à leur manière. En rentrant chez vous, il vous serait bon de lire cette histoire tout entière. C'était à l'époque de Samuel, l'homme de Dieu, le prophète. Il avait été un homme juste, bon, honorable, de bonne réputation, franc et honnête avec tout le monde, ne les décevant jamais et ne leur disant que la vérité. Ainsi dit le Seigneur. Mais les gens étaient arrivés à un point où ils voulaient changer de programme. Ils avaient observé les Philistins et les Amalécites, les Amorites, les Hittites et les autres nations du monde. Ils avaient vu qu'ils avaient des rois qui leur donnaient des lois, qui les gouvernaient, les guidaient, leur faisaient faire la guerre et ainsi de suite. Et il semble qu'Israël a voulu prendre modèle sur ses rois et vivre comme ses gens. Mais il n'a jamais été dans l'intention de Dieu à aucune époque que son peuple agisse comme les autres peuples de la terre. Jamais que son peuple soit gouverné ou contrôlé comme les autres peuples de la terre. Le peuple de Dieu est et a toujours été un peuple particulier, un peuple différent, un peuple élu, séparé, un peuple complètement différent dans ses agissements, dans ses coutumes, dans sa façon de vivre des autres peuples du monde. Les choses que le peuple de Dieu aime et sa façon d'être ont toujours été le contraire des choses que les peuples du monde désirent. Et le peuple d'Israël alla trouver Samuel et lui dit, « Maintenant tu deviens vieux et tes fils ne suivent pas ton exemple, parce qu'ils n'étaient pas loyaux comme Samuel. Ils étaient corrompus et usuriers. » Et ils dirent, « Samuel, tes fils ne sont pas comme toi. Aussi nous voulons que tu ailles nous chercher un roi, le consacrer et faire de nous un peuple comme tous les autres peuples du monde. » Et Samuel essaya de les convaincre que cela n'était pas bien. Il leur dit, « Si vous faites cela, la première chose qui arrivera est que votre roi prendra tous vos fils dans vos maisons et en fera des soldats pour courir devant ses chariots et porter des armures et des lances. En plus de cela, il appellera vos filles pour faire du pain et il les emmènera loin de vous pour nourrir l'armée. » Et il ajouta, « En dehors de tout cela, il mettra des taxes sur vous, sur vos grains, sur vos bénéfices. Il taxera tout ce qu'il pourra pour couvrir les dettes du gouvernement, et également tout ce qu'il aura à payer. Je crois qu'en fin de compte, vous faites une erreur. » Mais les gens répondirent, « Malgré tout, nous voulons être comme les autres peuples. » Il y a quelque chose qui fait que les hommes et les femmes veulent absolument être comme les autres. Il y a seulement un homme qui n'ait jamais vécu sur la terre pour nous donner un exemple, et c'est celui qui est mort pour nous tous, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a été l'exemple parfait de ce que nous devrions être, toujours obéir aux ordres du Père et faire ce qui est bien. Et malgré tous les efforts de Samuel pour les persuader, ils allaient constamment le trouver, et de jour, et de nuit. « Nous voulons un roi, nous voulons un homme, nous voulons un homme dont nous puissions dire « Voici notre guide ». Et cela n'a jamais été la volonté de Dieu, et ce ne sera jamais la volonté de Dieu qu'un homme en commande un autre. Parce que l'homme semble avoir toujours la même idée. Il ne paraît pas capable de comprendre que Dieu doit gouverner l'homme au lieu que ce soit l'homme qui gouverne l'homme. Alors, il se choisit un homme appelé Saül, qui était le fils de Kish. Et c'était un homme de bonne réputation, un homme honorable, et il plaisait bien au peuple, parce que c'était un homme grand, d'une stature imposante. Les Écritures rapportent qu'il dépassait de la tête et des épaules tous les hommes en Israël. Il avait une allure royale et avait une figure élégante. C'était un homme brillant et extraordinaire. Maintenant, c'est le genre d'homme que les peuples aiment choisir aujourd'hui. Les gens ne paraissent pas être satisfaits de la façon dont Dieu a décidé que son Église serait dirigée et gouvernée par le Saint-Esprit. Ils veulent quelqu'un, un homme, une dénomination, certaines personnes pour diriger l'Église, parce qu'ils ne sont pas capables de s'abandonner complètement entre les mains de Dieu pour être croyants et de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ils ont besoin que quelqu'un leur fasse leur religion, quelqu'un qui leur dira comment pratiquer cette religion et la leur expliquera complètement. Ainsi, cet homme paraissait convenir parfaitement à son poste parce qu'il était un homme très intellectuel. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui. Nous aimons choisir des gens de la sorte, également pour contrôler nos églises, pour contrôler l'Église de Dieu. Non pas que j'ai quoi que ce soit à dire contre cela, mais je veux simplement préciser que ce n'est pas, ce n'était pas, et ce ne sera jamais la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Dieu doit gouverner son peuple, gouverner chaque individu. Alors, nous voyons que ce fils de Kish, un grand homme avec sa stature, semblait plaire au peuple. Ses vêtements paraissaient somptueux, ainsi que la couronne sur sa tête, et la façon dont il dominait tout le monde quand il marchait était une vraie raison de fierté pour le royaume d'Israël. Car les autres rois des autres nations devaient penser, « Quel homme ! Regardez ! Qu'il puisse le montrer du doigt et dire, « Voyez quel grand roi nous avons ! Regardez quel grand homme nous commande !» Et c'est triste à dire, mais combien cela est vrai aujourd'hui avec l'Église ? Les fidèles aiment dire, « Notre pasteur n'a pas l'esprit étroit, c'est un grand homme, il est diplômé de Harvard ou de quelque grande école de théologie, il a 4 licences de tel et tel endroit, et il aime beaucoup se mêler à ses fidèles. » Tout cela peut être très bien et à sa valeur, mais le dessein de Dieu pour son Église est qu'elle soit conduite par le Saint-Esprit, et seulement par son Esprit. Mais ils aiment dire, nous appartenons à telle grande dénomination. Nous sommes partis à l'époque des pionniers, quand nous étions une minorité, un petit nombre de gens simples. Et maintenant nous avons grandi et nous appartenons à la plus grande dénomination existante. Nous avons les meilleures écoles et les meilleurs prédicateurs. Nous avons les gens les mieux habillés et l'élite intellectuelle de la ville appartient à notre Église. Et nous faisons de bonnes œuvres et nous faisons du bien et tout. Cela n'est rien du tout. Que Dieu me garde de dire un mot sur tout cela, car tout cela est bien, mais encore une fois, ce n'est pas la volonté de Dieu que l'homme gouverne l'homme. Le jour de la Pentecôte, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour régner dans le cœur de l'homme et pour diriger sa vie. Ce n'était pas dans le but que l'homme règne sur l'homme, mais nous aimons à le dire. C'est une chose très extraordinaire quand nous pouvons dire que nous appartenons à telle grande dénomination. Êtes-vous chrétien ? Voici comment je suis tombé sur ce texte. Quand j'étais à l'hôpital et que je demandais à quelqu'un « Êtes-vous chrétien ?» Les gens me répondaient « J'appartiens à telle ou telle église. »« Êtes-vous chrétien ?» « J'appartiens à telle ou telle église. » Et la petite infirmière vint près du lit où je lisais la Bible. Elle était nouvelle à l'étage. Elle dit « Comment allez-vous ? » Puis elle dit « Je crois que vous êtes le révérend William Branham et que vous êtes ici pour un examen médical. » « C'est moi, dis-je. » Elle dit, « Puis-je frotter votre dos avec de l'alcool pour que vous vous sentiez un peu mieux ?» Je dis, « Vous pouvez. » Et pendant qu'elle me frottait le dos, elle dit, « À quelle église appartenez-vous » Et je répondis, « Oh, j'appartiens à la plus vieille église qui soit. » Elle dit, « Quelle église est-ce » Je dis, « c'est celle qui a été fondée avant la création du monde. Oh, dit-elle, quoi? Je ne crois pas que je connaisse cela. J'appartiens à une certaine église. Est-ce celle-là? Je répondis, non, madame. Il y a seulement environ 200 ans que cette église existe. Mais mon église a commencé quand les étoiles du matin chantaient ensemble et quand les fils de Dieu criaient de joie quand ils virent la venue du Sauveur pour racheter l'humanité. Elle s'arrêta de me frotter le dos et je me penchai un peu comme cela pour que la dame puisse frotter. Elle était de près de Corydon et nous nous sommes mis à parler et elle a dit, « Monsieur, j'ai toujours cru que si Dieu a jamais été Dieu, il est encore Dieu aujourd'hui, exactement comme il était Dieu autrefois. » Elle dit, « Bien que mon Église nie cela absolument, je crois que c'est la vérité. » Et je lui dis, « Vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu, jeune dame. » Elle dit, « S'il a jamais été celui qui guérit, n'est-il pas encore celui qui guérit ?»« Il l'est très certainement, ma sœur, lui dis-je. Mais l'homme veut commander et commander l'homme. » Et l'homme veut que l'homme le commande. Il ne veut pas que ce soit Dieu qui le commande. Ainsi, ce fils de Kish du nom de Saül n'était qu'une réponse à ce qu'ils avaient voulu. Un grand homme imposant. Oh, il pouvait simplement les conduire au combat, et ainsi de suite. Encore une fois, ce n'était pas la façon de Dieu de faire les choses. Dieu voulait que son vieux prophète fidèle les dirige et leur transmette sa parole. Maintenant, aujourd'hui, à cette grande époque d'Église où nous vivons, je pense et je crois de tout mon cœur que nous faisons exactement le contraire de ce que Dieu nous a ordonné de faire. Les derniers mots que notre Sauveur a dit se trouvent dans Marc 16. « Allez, à travers le monde, et prêchez l'Évangile à chaque créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et ces signes suivront ceux qui croient. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas de fils de Kish, ou quiconque qui puisse faire cela, s'il n'est guidé par le Saint-Esprit. Mais nous avons fait des écoles, nous avons fait des séminaires, nous avons créé des organisations pour nous satisfaire et pour ressembler au reste du monde. Auparavant, le Saint-Esprit était le chef de cette nation. Cette nation était gouvernée par Dieu à l'époque où ils ont rédigé la déclaration d'indépendance. Il y avait là une chaise de plus. Il n'y a pas le moindre doute dans mon esprit que le Fils de Dieu était assis à cette table. Quand cette nation fut fondée sur les principes de la liberté de foi et de la liberté pour tous, et sur la base de la parole éternelle de Dieu. Mais nous avons corrompu tout cela par la politique. Nous avons élu un homme en achetant et en vendant et en faisant des promesses fallacieuses, jusqu'à ce que notre nation et notre politique et notre démocratie soient gâtées jusqu'à être mélangées de communisme et de toutes sortes d'œismes. Et très souvent, nous avons fait des réunions pour prier quand la Société des Nations se réunissait pour discuter. Et à un certain grand moment récemment, il n'y a même pas eu de temps réservé à la prière. Comment pourrons-nous jamais arriver à des accords sans la prière? Comment pouvons-nous espérer dans le monde entier arriver à faire quoi que ce soit sans être conduits par le Saint-Esprit? Mais laissez-moi dire avec tout l'amour et le respect pour notre nation et pour son drapeau et pour la République qu'il représente, ceci. Nous avons repoussé notre chef, le Saint-Esprit, et par une politique corrompue, nous avons élu des hommes d'esprit pervers. Et si vous n'êtes pas attentifs, ils vont commettre une des erreurs les plus fatales qu'ils aient jamais commis jusqu'à maintenant. Et cela parce que le peuple veut que l'homme les dirige. Ce qu'il nous faut à la direction de ces États-Unis d'Amérique comme président, ce qu'il nous faut au Congrès, ce qu'il nous faut dans nos cours de justice, ce sont des hommes qui ont consacré leur vie à Dieu, qui sont remplis du Saint-Esprit et sont conduits par sa divine direction. Mais au lieu de cela, nous choisissons des intellectuels, des hommes dont nous faisons des dieux et qui nient la puissance de Dieu, des hommes qui sont athées et quelquefois même pire que cela, nous les avons élus dans les sphères de la politique et même dans nos églises. Nos églises se sont corrompues parce que nous, en choisissant nos bergers pour nous conduire, nous sommes allés dans les séminaires, nous avons choisi des hommes qui soient des géants intellectuels, des hommes à l'esprit brillant, des hommes qui soient érudits et soient profondément mêlés au monde et soient de grands hommes dans leur région. Je n'ai rien à redire à cela. Des hommes qui aient une démarche aimable, prudent dans leur façon de vivre et qui sachent se conduire et bien se comporter au milieu du peuple, de grands hommes dans leur spécialité. Je ne dis pas de mal de cela, qu'à Dieu ne plaise que j'en dise jamais du mal. Mais encore une fois, ce n'est pas ce que Dieu a choisi pour nous, c'est la conduite du Saint-Esprit, le Christ, dans le cœur de l'homme. Beaucoup de ces intellectuels qui montent dans nos chairs nient la véritable existence du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre eux nient l'existence de la guérison divine et de la puissance de l'Esprit. Je lisais hier un article de journal, je crois que c'était une série de coupures de journaux que Jack Coe, feu Jack Coe, un de mes convertis au Seigneur Jésus, qui était un puissant homme de valeur de son vivant et qui fut cité en justice en Floride parce qu'il avait demandé à un jeune enfant de laisser ses béquilles et de traverser le podium. Et en faisant cela, l'enfant traversa le podium normalement et il tomba en arrivant près de sa mère, tout cela étant une mise en scène de l'ennemi du Christ. Cette jeune femme et son mari citèrent notre cher frère en justice, et alors que chaque église aurait dû soutenir frère Jacques, alors que chaque pasteur qui prononce le nom du Seigneur Jésus-Christ aurait dû défendre courageusement frère Jacques, alors que chaque homme qui implore le nom du Seigneur Jésus-Christ aurait dû s'agenouiller pour prier, au lieu de cela, sur les manchettes des journaux, une de nos grandes dénominations a dit se joindre aux athées pour faire condamner et emprisonner frère Jacques Coe. Pourriez-vous imaginer une église se réclamant du nom de Christ se joindre à un athée pour condamner un homme de Dieu qui essayait de toutes ses forces de proclamer la Bible? Et pourtant, ils l'ont fait. Et alors, frère Gordon Lindsay va à son secours. Et quand le juge incrédule dit « Cet homme est un imposteur parce qu'il a enlevé les béquilles à cet enfant et lui a fait traverser le podium et a dit qu'il était guéri et il a menti et il a fait quelque chose contraire aux ordres du médecin », en conséquence, il a à se disculper de l'accusation de tromperie portée contre lui. Et M. Cole s'est levé et a dit, « Monsieur, je nie cette affirmation. Dieu a guéri le garçon. » Et le juge dit, « Je vais demander à quelqu'un pris au hasard dans ce prétoire si la déclaration que Dieu a pu guérir ce garçon à une extrémité du podium et faire qu'il ne soit plus guéri à l'autre extrémité peut être vrai. Si cela peut être prouvé par la Bible, alors je dis que M. Cole a raison. » Et un pasteur leva la main et dit, « Votre honneur, puis-je le mentionner ?» Et le juge dit, « Mentionnez l'Écriture. » Et le pasteur se leva et dit, « Une nuit, par une mer houleuse, alors qu'un petit bateau allait sombrer, tous les espoirs d'être sauvés s'étaient évanouis. Ils virent Jésus, le Fils de Dieu, marchant sur les eaux. Et un de ses apôtres, appelé Pierre, dit, « Si c'est toi, Seigneur, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Et le Seigneur dit à l'apôtre Pierre, « Viens !» Et il est sorti du bateau, monsieur, marchant sur l'eau, aussi bien que Jésus l'avait fait. Mais il eut peur, et il commença à s'enfoncer avant d'arriver à Jésus. Le juge dit, « Non lieu, nous avons besoin d'être dirigés par le Saint-Esprit, et non par un intellectuel. » Saül, le fils de Kish, fut alors nommé capitaine du peuple, et il leva 2000 hommes, et Jonathan prit 1 000 000, et Jonathan attaqua une garnison, et frappa une poignée d'Amorites, ou plutôt d'Ammonites. Et quand il les eut tués, Saül fit sonner de la trompette et dit, « Voyez ce que Saül a fait. » Il commença à se rengorger. Aussitôt qu'un homme arrive à être un grand docteur en théologie, ou à quelque chose derrière son nom, il devient plus ou moins comme quelqu'un qui sait tout. L'homme de Dieu est un homme humble. Le peuple de Dieu est un peuple humble. Quand vous voyez des gens qui disent avoir reçu le Saint-Esprit et qui commencent à se diviser, n'ayant pas apparemment la même foi et se démenant pour avoir l'air d'être ce qu'ils ne sont pas, rappelez-vous bien qu'ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus. Puis nous voyons que l'ennemi s'installe et essaye de s'introduire dans un petit groupe de croyants Il essaye d'arracher l'œil droit de chacun. Ce que l'ennemi essaye toujours de faire est d'arracher les deux yeux s'il le peut, pour que les gens ne puissent pas voir ce qu'ils font. C'est ce que Satan essaye de faire aujourd'hui à chaque chrétien. Lui arracher sa vue spirituelle pour qu'il puisse seulement percevoir le sens intellectuel des choses et non le sens du Saint-Esprit le dirigeant. Quand ils eurent fait cela, quand la grande défaite vint, alors Saül découpa deux grands bœufs et les fit distribuer à tout le peuple. Et je vous prie de remarquer ceci, quand Saül envoya les morceaux de bœuf à tout Israël et dit que tout homme qui ne suivra pas Samuel et Saül soit comme ce bœuf, voyez-vous combien justement il essayait de se présenter comme l'homme de Dieu, combien peu il était chrétien. Le peuple craignait Samuel, mais Saül a fait en sorte qu'il le suive parce qu'il craignait Samuel. Qu'il suive Samuel et Saül. Et combien de fois de nos jours avons-nous entendu dire ceci? Nous sommes la grande Église. Nous sommes l'Église du Christ. Nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes les tels et tels. Cela fait très peur aux gens et ils pensent vraiment que c'est là que Dieu est. Et ils ne veulent pas suivre le Saint-Esprit. Ils préfèrent suivre un homme comme cela parce qu'ils aiment vivre leur propre vie égoïste. Ils aiment croire à ce qu'ils veulent croire. Voyez-vous, le Saint-Esprit est notre juge. Dieu ne nous a pas donné jamais un pape ou un évêque ou qui que ce soit pour être un juge. Le Saint-Esprit, Dieu sous la forme du Saint-Esprit, est notre juge, est notre guide. Maintenant, pourquoi en est-il ainsi? Je vous en prie, pardonnez-moi cette expression très impolie. Je ne l'ai pas dite par impolitesse, je l'ai dite par amour. Mais le Saint-Esprit dit qu'il est mal pour nos femmes de couper leurs cheveux, et qu'il est mal pour nos femmes de porter des shorts et des pantalons, et de peindre leurs lèvres et leurs visages. Le Saint-Esprit dit que c'est mal, mais nous voulons que les hommes nous disent que c'est très bien, pourvu que nous suivions Samuel et moi. Ils aiment vivre comme ils veulent pendant 6 jours, aller à l'église le dimanche matin, et ce sont de beaux intellectuels, des bacheliers avec beaucoup de diplômes. On peut leur faire un petit sermon et leur dire quelques anecdotes qui les amuseront et les divertiront comme un film ou un programme de télévision, et dire une petite prière avec eux et les renvoyer chez eux avec la certitude aimable et confiante qu'ils ont accompli leurs devoirs religieux. Ce n'est pas la volonté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut que vous viviez saintement tous les jours et toutes les nuits de la semaine, vous écartant des choses du monde. Mais l'Église ne veut pas cela. Elle veut quelqu'un qui puisse interpréter la Bible de la façon qu'elle veut l'entendre. Elle ne veut pas écouter la voix du Saint-Esprit parlant par la Bible. Beaucoup d'entre eux veulent dire « le temps des miracles est passé ». C'est ce qui intéresse les gens. Ils veulent dire « il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit ». Les gens ne veulent pas agir autrement que le reste du monde. Ils ne veulent pas marcher dans la rue, les visages lavés et les hommes se tenant correctement et sans cigarette à la bouche, ni cigare, ni pipe et autre chose que les hommes font. Et les femmes veulent leurs cheveux coupés très courts et porter des mini-jupes montrant leur forme et ce qu'elles veulent. Elles veulent un homme qui leur dise que c'est très bien. Alors, l'autre soir, un homme est venu me dire que puisque j'avais prêché contre de telles choses, environ 5 membres d'une grande église avaient dit « Nous allons laisser tomber frère Branham, nous n'aurons plus rien à faire avec lui. » Ou vous détruisez ses bandes magnétiques et présentez des excuses, ou nous vous abandonnons. Je dis « Je suivrai la parole de Dieu, même si vous devez prendre tout ce que j'ai au monde, je resterai fidèle à la parole. » Il a dit « Bien, mais ne pourriez-vous pas détruire telle et telle bande ?» Je dis, je n'ai jamais rien prêché dans ma vie dont je puisse avoir honte. Je ne détruirai ni bande magnétique, ni disque. Je reste attaché à ce que dit le Saint-Esprit. Je vivrai et je mourrai attaché à ce qu'il dit. Je n'essaye pas de parler de moi maintenant, mais j'essaye simplement de vous renseigner sur ce qui se passe pour que vous voyez et compreniez. C'est le peuple qui veut être conduit par l'homme. Il ne voulait pas Samuel. Alors, devant le roi consacré, Samuel, ou Saül le roi, Samuel revint devant eux. Et je vais vous parler exactement dans le même langage qu'il aurait employé aujourd'hui. Vous pouvez le lire. Il dit, « Que diriez-vous d'avoir Dieu pour roi ? Mais nous ne voyons pas Dieu. »« Bon, je suis son représentant, dit Samuel. Vous ai-je jamais dit quelque chose de mauvais ? Vous ai-je jamais prédit quelque chose qui ne soit pas arrivé exactement comme j'avais dit qu'elle arriverait ? Ne vous ai-je pas dit la parole du Seigneur ? Et je vous demande ceci, suis-je venu vers vous à aucun moment pour vous demander de l'argent ? Vous ai-je jamais pris quelque chose ? Vous ai-je jamais apporté autre chose que la vérité ? Ainsi dit le Seigneur. » Et chaque fois, Dieu a confirmé que c'était la vérité, et il a envoyé le tonnerre et la pluie. Vous savez que l'Écriture est là pour prouver que Samuel était le porte-parole de Dieu. Et de même que Samuel représentait alors le Saint-Esprit est le porte-parole de Dieu. Il rapporte exactement ce que la Bible a dit. Il croit simplement ce que la Bible a dit et ne veut pas s'en écarter. Mais il voulait quelqu'un qui puisse leur dire autre chose. Et le peuple ne pouvait pas dire que la prophétie de Samuel n'était pas parfaite. Ils répondirent et dirent, « Samuel, tout ce que tu as dit dans le nom du Seigneur, le Seigneur l'a fait s'accomplir exactement comme tu l'avais dit. Il n'y a pas une faille. Tu n'es jamais venu nous demander de l'argent. Tu t'es suffi à toi-même. Tu ne nous as jamais rien demandé d'extraordinaire pour toi. Tu as eu confiance en ton Dieu et il t'a protégé et tes paroles sont vraies. Tout ce que tu as dit au nom du Seigneur est arrivé exactement comme tu l'as dit. Mais nous voulons quand même un roi. » Voyez-vous la contradiction ? Voyez-vous comment la malignité du démon peut agir sur un être humain ? Au lieu de se soumettre lui-même ou elle-même au Saint-Esprit et d'écouter ce que ainsi dit le Seigneur et qui propose une vie pure, un caractère saint, une vie différente pour un peuple particulier, une nation sainte, un peuple agissant avec sagesse, il préfère être en harmonie avec le monde, agir selon le monde et aller à une église qui dit « C'est très bien, faites comme cela et continuez. » Vous voyez ce que c'est ? Ils disent « La guérison est une chose qui n'existe pas. Oh, le baptême du Saint-Esprit était pour le lancement de l'Église. » En d'autres termes, quand Dieu a pris l'homme, il a enlevé le Saint-Esprit de l'Église et il a laissé les dénominations la construire. Non et non, jamais, une telle chose n'existe pas. Le Saint-Esprit, la parole de vérité était là pour nous guider en attendant l'arrivée de Jésus. Mais cela s'est passé comme cela. Saül accéda au pouvoir. Il eut une grande suite. Oh, il avait de magnifiques armures, il avait des chanteurs, il avait des boucliers, il avait des lances. Oh, il éclipsa toutes les autres nations et il les amena dans une démocratie qui était au-delà de tout ce que quiconque eût jamais entendu parler. Et c'est exactement ce que nos croyances et nos églises ont fait aujourd'hui. Nous avons les églises les plus monumentales du monde. Nous avons les gens habillés le plus richement du monde. Nous possédons les plus hauts degrés de théologie que l'on puisse avoir. Comme les soldats entraînés de Saül qui pouvaient prendre une lance et s'en servir jusqu'à ce que les nations les craignent. C'était un peuple entraîné et tout. Mais un jour vint un provocateur et il impressionna tellement toute l'armée d'Israël que les soldats tremblaient dans leurs souliers. Goliath leur lança un défi. « Si votre Dieu est ce que vous dites qu'il est, vous êtes les mieux entraînés. » Et il les provoqua. Ils ne savaient pas quoi faire. Leurs belles armures luisantes étaient inutiles. Leurs lances étaient inutiles. Quelque chose d'inconnu arrivait. Et avec toute la vénération, le respect religieux et l'honneur, et la dignité et l'amour d'un chrétien, je dis ceci. J'ai lu l'autre jour dans un journal africain que notre fils de quiche, Billy Graham, a été attaqué par notre adversaire en évangélisation, un mahométan. Il a été provoqué et qu'il a dit, « Si votre Dieu est Dieu, qu'il guérisse les malades, comme a dit qu'il l'avait fait. » Et le fils de quiche et le reste de son armée se calmèrent et battus quittèrent le pays. C'est une honte. Notre Dieu est Dieu. Nous avons nos bonnes églises, nous avons notre belle évangélisation, nous avons nos chanteurs appointés, nous avons les meilleures chorales, les plus hauts clochers du pays, les meilleurs hommes, beaucoup d'argent, nous avons les intellectuels, nous avons une théologie précise, nous pouvons la prêcher, nous pouvons la dire, nous pouvons évangéliser et convertir les gens et faire des millions de conversions chaque année. Mais nos chanteurs appointés, notre évangélisme intellectuel ne savent pas comment répondre à une provocation de cette sorte. Ils ne savent rien. Ils ne savent rien de sa puissance de guérison, du baptême du Saint-Esprit, d'une puissance qui peut prendre l'ombre d'un homme mourant d'un cancer et le guérir. Ils ne savent rien de tout cela. Ils n'ont pas été instruits sur ce sujet, de même que Saül et son groupe humain ne l'étaient pas. Mais laissez-moi dire au peuple de Dieu et à vous, enfants, que vous devriez savoir que Dieu ne vous laisse jamais sans un témoin. Ce témoin était ignoré de Saül. Saül n'en savait absolument rien, mais Dieu avait un petit David derrière une colline quelque part, qui ne nourrissait pas ses moutons d'herbe ecclésiastique. Il les conduisait auprès des eaux tranquilles et dans de verts pâturages. Il gardait soigneusement les moutons de son père. Et si quelque chose arrivait en courant, un ennemi, pour saisir une des brebis de son père, il connaissait la puissance de Dieu pour délivrer cette brebis. Dieu a encore un David quelque part qui sait ce que signifie délivrer une brebis de Dieu par la puissance de Dieu. Il sait encore tout à ce sujet. Il possède la foi. Il ne savait rien et ne voulait rien savoir de l'armure de Saül. Il ne voulait aucune de leurs croyances. Il ne voulait pas revêtir la vieille armure. Il disait, « Je ne sais rien sur ce sujet, mais laissez-moi m'abandonner à la puissance que je connais. » Il avait nourri les brebis de son père. Il avait pris soin de leur pâturage. Il leur avait donné la nourriture qu'il fallait et ils avaient vécu et bien prospéré. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Le vrai pasteur les nourrit, Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et si l'ennemi saisit quelqu'un par la maladie, le vrai serviteur connaît la puissance de Dieu. Regardez le petit David se dressant là. On leur a dit, cet homme est un guerrier depuis sa naissance. Et depuis sa naissance, il n'a connu qu'une lance et une armure. Il est bien entraîné, c'est un théologien. Et tu ne connais rien de ce sujet ? Il a dit, c'est vrai, monsieur, je ne connais rien de cette éducation théologique, mais il y a une chose que je sais. Quand un ennemi est venu pour prendre des moutons de mon père, je l'ai affronté avec la puissance de Dieu, je l'ai délivré, je l'ai de nouveau ramené à la santé, je l'ai ramené au vert pâturage ombragé et aux eaux tranquilles. Et mon Dieu a livré le lion dans mes mains, et j'ai tué ce lion quand il a pris un des agneaux, et le Seigneur m'a laissé tuer l'ours. De même, le Dieu du ciel sera avec moi pour tuer le Philistin, cet incirconcis. Il nous faut la conduite du Saint-Esprit. Je ne sais pas combien de temps je vivrai. Personne ne le sait. L'autre matin, j'étais couché dans mon lit et je dormais et je rêvais que Joseph était malade. Je l'avais pris et je priais pour lui. Et quand je me suis réveillé, j'étais très ennuyé. Je me dis, bien, peut-être Joseph va-t-il être malade. Et je vis une petite ombre sombre marcher, d'une couleur plutôt brune. Elle me ressemblait. Et j'observais venant derrière quelqu'un en blanc. Et c'était lui, le Seigneur. Je regardais ma femme pour voir si elle était éveillée, pour que je puisse lui montrer si elle pouvait voir la vision. Mais elle dormait. Je dis, oh, excuse-moi, Seigneur, mais cela a été ma vie. Tu as dû me diriger dans tout ce que j'ai fait. Chaque fois que quelque chose arrivait, j'ai cru que c'était toi qui le faisais. Mais je comprends que dans ce rêve, c'était Satan qui essayait de me retenir loin de toi. Je dis, si tu veux seulement me conduire. Et comme je regardais, je vis le plus joli visage que j'ai jamais vu à un homme. Le Seigneur était devant moi, regardant en arrière. Il leva sa main, il saisit la mienne et commença à la remuer. La vision me quitta. Dimanche dernier, je me réveillais tôt le matin, c'était le samedi. Cette vision m'avait rendu inquiet, j'ai toujours pensé à la mort. Moi, à 50 ans, mon temps n'est plus long. Je ne pense pas qu'il fût trop long. Je me demandais comment cela serait lorsque nous aurons ce corps céleste. Reverrai-je mes chers amis? Verrai-je partir un petit brouillard blanc et dirai-je « Voilà frère Neville » et il ne pourrait pas dire « Hello frère Branham » et quand Jésus viendra, alors serai-je de nouveau un homme? J'ai souvent pensé à cela. Je rêvais que j'étais en mission dans l'Ouest et je descendais par un endroit étroit. Ma femme était avec moi et nous pêchions la truite. Je m'arrêtais et j'ouvris le portail et les cieux étaient si beaux. Ils ne ressemblaient pas à ceux de cette vallée. Ils étaient bleus, avec de jolis nuages blancs. Et je dis à ma femme, « Il y a longtemps que nous aurions dû être ici, ma chérie. » Elle dit, « Nous aurions dû y être pour le bien des enfants, Billy. » Je dis, « C'est vrai. » Et je m'éveillais. Je dis, « Je rêve tant. Je me demande pourquoi. » Et je baissais les yeux. Elle était étendue à côté de moi. Et je me soulevais sur mon oreiller, comme beaucoup d'entre vous ont fait. J'appuyais ma tête contre la tête du lit, et je mis mes mains derrière moi. Et je me tenais ainsi et je dis, « Bon, je me demande comment ce sera de l'autre côté. J'ai déjà 50 ans et je n'ai encore rien fait. Si je pouvais seulement faire quelque chose pour aider le Seigneur, car je sais que je ne serai pas immortel. Au moins, la moitié de ma vie est déjà passée, ou plus que la moitié. Si je vis aussi vieux que mes parents, la moitié de ma vie est passée. » Et je jetai un coup d'œil circulaire et me décidai à me lever. Il était environ 7 heures. Je dis, « Je crois que je vais descendre à l'église ce matin. Comme je suis enroué, j'aimerais entendre prêcher frère Neville. » Aussi je dis, « Es-tu éveillée, ma chérie ?» Elle dormait très profondément. « Et je ne veux pas manquer ceci. Cela m'a changé. Je ne peux plus être le même frère Branham que j'étais. » Et je regardais, et j'entendis quelque chose qui disait continuellement, « Tu commences seulement. Hâte le combat. Hâte-toi. » Je secouais la tête pendant une minute et puis je pensais, « Bon, je pense probablement simplement ceci, vous savez, une personne se fait des idées. » Et je dis, « J'ai probablement simplement imaginé cela. » La voix disait, « Hâte la bataille, continue, continue. » Et je dis, « Peut-être l'ai-je dit moi-même à haute voix. » Et je mis mes lèvres entre mes dents et je mis ma main sur ma bouche. Et la voix revint encore, elle dit, « Continue simplement à te hâter. » Si seulement tu savais ce qu'il y a à la fin de la route. Et c'était comme si j'entendais Grimm, Snelling ou quelqu'un d'autre chanter ce cantique comme celui-ci. Oh, le chanter ici, Anne-Maë et vous tous, j'ai le mal du pays et je suis triste et je veux voir Jésus. Je voudrais entendre sonner ces douces cloches du port, cela illuminerait ma route et dissiperait toute frayeur. Seigneur, laisse-moi regarder au-delà du rideau du temps. Vous l'avez entendu chanter ici, à l'Assemblée, et j'ai entendu quelque chose dire, voudrais-tu simplement regarder au-delà du rideau? Je dis, cela m'aiderait tant, et je regardais, et en un moment un souffle, j'étais entré dans un petit endroit en pente. Je me retournais, et j'étais là, étendu sur le lit. Je dis, ceci est une chose étrange. « Maintenant, je n'aimerais pas que vous répétiez ceci. Ceci est pour mon Église, mon troupeau dont j'ai la charge. Que ce soit dans ce corps ou en dehors, je ne sais. » Cela ne ressemblait à aucune vision que j'ai jamais eue. Je pouvais voir là-bas et je pouvais voir ici. Et quand je suis entré dans cette petite place, je n'ai jamais vu tant de gens venir en courlant et en hurlant. « Oh, notre cher frère !» Et je regardais... Et des jeunes femmes d'une vingtaine d'années, 18 ou 20 ans, elles jetaient leurs bras autour de moi et criaient, « Notre bien-aimé frère !» Puis venaient des hommes jeunes, dans tout l'éclat de la jeunesse, et leurs yeux brillaient et ressemblaient à des étoiles dans la profondeur de la nuit. Leurs dents étaient aussi blanches que des perles, et ils hurlaient, et ils m'attrapaient et criaient, « Oh, notre bien-aimé frère !» Et je m'arrêtais, je regardais, et j'étais jeune. Je regardais mon vieux corps étendu là, les mains derrière la tête. Je dis, « Je ne comprends pas ceci. » Et ces jeunes femmes m'entourant de leurs bras. Maintenant, je vois que l'auditoire est mixte, et je dis ceci avec la gentillesse et la douceur de l'esprit. Un homme ne peut pas prendre une femme dans ses bras sans en ressentir une sensation. Mais là, il n'y en avait pas. Il n'y avait ni hier, ni demain. Il n'était pas fatigué. De ma vie, je n'ai jamais vu d'aussi jolies femmes. Leurs cheveux descendaient jusqu'à la taille et leurs jupes jusqu'à leurs pieds. Et elles me serraient dans leurs bras. Elles ne m'embrassaient pas et je ne les embrassais pas. Il y avait quelque chose qu'aucun mot ne peut décrire. Je ne trouve pas de mots pour l'expliquer. Perfection serait impropre. Superbe en serait très loin. C'était quelque chose que jamais je ne pourrais dire, il faudrait le voir. Et je regardais de côté et d'autre, et ils arrivaient par milliers, et je dis, je ne comprends pas ceci. Je dis, pourquoi? Puis arriva Hope, c'était ma première femme. Elle courut vers moi, mais ne dit pas mon mari, elle dit mon cher frère. Et quand elle m'étreignit, il y avait une autre femme là qui m'avait étreint. Et alors Hope étreignit cette femme. Et chacune d'elles, je pensais, ceci doit être quelque chose de différent. Ce ne peut pas être comme là-bas. Il y a quelque chose de merveilleux ici. Oh, voudrais-je jamais retourner dans cette vieille carcasse? Je regardais autour de moi et je pensais, qu'est-ce que ceci? Et j'avais l'air vraiment bien, je dis, je ne peux pas comprendre cela. Mais Hope était comme une invitée d'honneur. Elle n'était pas différente, mais elle ressemblait à une invitée d'honneur. Et j'entendis une voix qui était dans la même pièce que moi et qui disait, c'est ce que tu as dit dans tes prédications, être le Saint-Esprit. Ceci est l'amour parfait, et personne ne peut entrer ici sans le posséder. Je suis plus convaincu que jamais qu'il faut être capable d'un amour parfait pour entrer là-bas. Il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de fatigue, il n'y avait pas de mort. La maladie ne pourrait jamais entrer là, la mortalité ne pouvait jamais vous faire vieillir, et il ne pouvait pas pleurer, il n'y avait que la joie totale et parfaite. Oh, notre bien-aimé frère! Et ils m'entraînèrent, ils m'installèrent sur un grand droit élevé, et je pensais, je ne rêve pas. Je regardais mon corps étendu là sur le lit, et ils m'installèrent là-haut, et je dis, oh, je ne devrais pas m'asseoir ici. Et des femmes et des hommes arrivèrent des deux côtés, tous en pleine jeunesse, hurlant. Et une femme se tenait debout là et criait, « Oh, notre bien-aimé frère, oh, nous sommes si heureux de vous voir ici. » Je dis, « Je ne comprends pas cela. » Et alors cette voix qui parlait au-dessus de moi dit, « Tu sais qu'il est écrit dans la Bible que les prophètes se réunissaient avec leurs disciples. » Et je dis, « Oui, je me souviens de cela dans l'Écriture. » La voix dit, « Bon, ce sera comme cela. » quand tu te réuniras avec les tiens. » Je dis, « Alors ils seront réels et je pourrai les toucher ?»« Oh oui !» Je dis, « Mais il y en a des millions, il n'y a pas autant de Branham. » Et cette voix dit, « Ce ne sont pas des Branham, ce sont ceux que tu as convertis, ce sont ceux que tu as conduits au Seigneur. » Et la voix ajouta, « Certaines de ces femmes ici que tu penses être si belles avaient plus de 90 ans quand tu les as conduites au Seigneur. » Rien d'étonnant à ce qu'elles crient, notre bien-aimé frère. Elles crièrent toutes ensemble, « Si vous n'étiez pas venus, nous ne serions pas ici. » Je regardais tout autour de moi, je pensais, « Bien, je ne comprends pas. » Je dis, « Oh, où est Jésus? J'ai tellement envie de le voir. » La voix dit, « Maintenant il est un petit peu plus haut, tout en haut, par là. Un jour il viendra à toi. » Vous voyez, la voix dit encore, tu as été envoyé comme dirigeant, et Dieu viendra, et quand il viendra, il te jugera suivant ce que tu leur as enseigné. Et tous dirent, nous obéissons à ton enseignement. Je dis, oh, je suis si heureux. Paul doit-il se tenir comme ceci? Pierre doit-il se tenir comme ceci? Oui, je dis, alors j'ai prêché les mêmes mots qu'eux. Je ne m'en suis jamais écarté, ni d'un côté, ni de l'autre, comme ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Ainsi ai-je fait, comme ils ont enseigné le baptême du Saint-Esprit, ainsi ai-je fait. Tout ce qu'ils ont enseigné, je l'ai enseigné également. Et ces gens crièrent et dirent, nous savons cela, et nous savons qu'un jour nous retournerons sur la terre avec toi. Ils dirent, Jésus viendra, et tu seras jugé suivant la parole que tu nous auras prêchée. Et alors, si tu acceptes à ce moment, et tu le sauras, alors tu nous présenteras à lui comme les trophées de ton ministère. Ils dirent, tu nous conduiras à lui, et ensemble nous retournerons sur la terre pour vivre toujours. Je dis, dois-je retourner maintenant? Oui, mais continue à te hâter. Je regardais, et je voyais les gens, Du plus loin où je pouvais voir, ils arrivaient encore voulant m'étreindre, criant « Notre bien-aimé frère ». Alors, à ce moment, une voix dit « Tout ce que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te l'a donné ici ». Et je regardais, et je vis venir mon vieux chien, également mon cheval, et il a posé sa tête sur mon épaule, il a hémi. La voix dit « Tout ce que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés dans ta main, par ton ministère. » Et je me suis senti sorti de cet endroit magnifique, et je regardais autour de moi, je dis « Es-tu éveillée, chérie ?» Elle dormait encore, et je pensais « Oh mon Dieu, aide-moi, oh mon Dieu, ne me laisse jamais dire une mauvaise parole, laisse-moi attacher à la parole et à la prêcher, je ne m'inquiète pas de ceux qui viennent ou de ceux qui partent, de ce que les gens font, combien de Saül ou de fils de Kish viennent, combien de ceci ou de cela ou d'autres. Laisse-moi, Seigneur, me hâter vers cet endroit. Tout le monde a peur de la mort. Je dis ceci ce matin avec ma Bible devant moi. J'ai un petit garçon de 4 ans élevé. J'ai une fille de 9 ans et une fille de plus de 10 ans. Et je remercie Dieu de me les avoir donnés. Le Seigneur l'a voulu ainsi. Ô Dieu, laisse-moi élever mes enfants dans ton amour. En plus de cela, le monde entier semble crier vers moi. Des femmes de 90 ans et des hommes de toutes sortes. Si vous n'étiez pas venus, nous ne serions pas ici. Ô Dieu, laisse-moi hâter le combat. Mais s'il s'arrête, je n'existe plus. Ce serait une joie, ce serait un plaisir de sortir de cette corruption et de cette disgrâce. Si je pouvais construire là-haut un bloc carré haut de 100 billions de miles et que ce soit l'amour parfait. Chaque pas vers la terre devient plus étroit jusqu'à ce que nous arrivions où nous sommes maintenant. Ce serait simplement à peine l'ombre de la corruption. Ce petit quelque chose que nous éprouvons nous fait sentir qu'il y a quelque chose quelque part. Nous ne savons pas ce que c'est. Ô mon cher ami, mes bien-aimés, mes très chers dans l'Évangile, mes enfants consacrés à Dieu, écoutez-moi, moi votre pasteur. Je voudrais trouver un moyen de vous expliquer cela, mais il n'y a pas de mots. Je ne peux pas en trouver, ils ne sont nulle part. Mais juste au-delà de ce dernier souffle, il y a la chose la plus glorieuse qui puisse exister. Il n'y a pas de moyen pour l'expliquer. Il n'y a pas de moyen, il m'est impossible de le faire. Mais quoi que vous fassiez, mes amis, laissez tout de côté jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Arrivez à ce moment où vous pourrez aimer tout le monde, tous vos ennemis, tout ce qui n'est pas vous. Cette visite là-bas fait de moi un homme différent. Je ne pourrai jamais plus être le même frère Branham que j'étais auparavant. Les avions peuvent tanguer, les éclairs peuvent sillonner le ciel, mes ennemis peuvent me menacer de leur revolver. Quoi qu'il puisse arriver, cela n'a pas d'importance. Je vais hâter le combat par la grâce de Dieu et je prêcherai l'Évangile à chaque créature et à chaque personne que je pourrai, leur faisant entrevoir cette merveilleuse terre au-delà. Cela peut paraître difficile, cela peut demander beaucoup de vigueur. Je ne sais pas encore combien de temps, nous ne savons pas. Du point de vue physique, d'après mon examen de l'autre jour, ils m'ont dit « Vous avez encore 25 ans de vie dure et utile, vous êtes solide. » Cela m'a aidé, mais ce n'est pas cela, ce n'est pas cela, c'est quelque chose à l'intérieur, ici. Cette corruption doit conduire à l'honnêteté, cette mortalité doit conduire à l'immortalité. Des fils de Kish peuvent venir. Toutes les bonnes choses qu'ils font, je n'ai rien de mal à dire contre. Donnez aux pauvres et aux œuvres. Et rappelez-vous comment Samuel a dit à Saül, « Toi aussi tu prophétises. » Et beaucoup de ces hommes sont de grands orateurs puissants qui peuvent prêcher la parole comme des archanges. Et pourtant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu doit être leur roi. Alors, chers frères et chères sœurs, que le Saint-Esprit vous dirige. Courbons la tête un moment. J'ai tellement le mal du pays, et je suis triste, et je veux voir Jésus. Je voudrais entendre sonner ces douces cloches du port. Cela éclairerait ma route et chasserait toute peur. Seigneur, laisse-nous regarder au-delà du rideau du temps. Seigneur, laisse-moi regarder au-delà du rideau des peines et de la peur. Laisse-moi contempler ce magnifique pays ensoleillé. Cela fortifierait notre foi et chasserait toute crainte. Seigneur, permets-leur de regarder au-delà du rideau du temps. Je suis certain, Seigneur, que si cette petite église ce matin pouvait regarder au-delà du rideau, aucune peine ne pourrait jamais les affliger, aucune maladie, rien que la perfection. Et il n'y a qu'un souffle entre ici et là-bas, entre la vieillesse et la jeunesse, entre le temps et l'éternité, entre un lourd demain et un chagrin d'hier, entre un présent fugitif et l'éternité dans la perfection. Je t'en prie, mon Dieu, bénis chaque personne présente ici. S'il y en a ici, Seigneur, qui ne te connaissent pas dans cet amour parfait et particulier, aide-les. Et vraiment, Père, personne ne peut entrer dans ce saint lieu sans ce genre d'amour. Donne une nouvelle naissance. Le Saint-Esprit, Dieu est amour, et nous savons que cela est vrai. Peu importe si nous remuons des montagnes grâce à notre foi, si nous faisons de grandes choses, sans cet amour-là, nous ne pourrions jamais gravir cette grande échelle là-bas. Mais cet amour-là nous soulèvera au-dessus des soucis terrestres. Je t'en prie, Père, bénis les personnes présentes ici, et Seigneur, sois mon témoin auprès de chaque personne qui m'a entendu dire cette vérité ce matin. Comme Samuel autrefois, ai-je jamais dit quelque chose en ton nom qui ne soit pas vrai? Ils sont juges, et je leur dis maintenant, Seigneur, que tu m'as mené à cette terre. Tu sais que cela est vrai. Et maintenant, Père, s'il y en a quelques-uns qui ne te connaissent pas, que cette heure soit celle où ils diront, Seigneur, mets en moi la volonté d'agir selon ta volonté. Accorde-le, Père. Et maintenant, vous baissez la tête, vous levez vos mains, dites, priez pour moi, frère Branham, que la volonté de Dieu soit en moi. Maintenant, pendant que vous êtes là, vraiment bien disposé, pourquoi ne dites-vous pas au Père, ô Dieu, du fond de mon cœur aujourd'hui, je renonce à toutes les choses du monde, je renonce à tout pour t'aimer et te servir toute ma vie, et je veux, à partir de ce jour, te suivre, selon chaque verset de ta Bible. Si vous n'avez pas été baptisé du baptême chrétien, dites, je le veux, Seigneur. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, demandez-le-lui. Vous verrez quand vous l'aurez reçu. Cela vous donnera l'assurance et l'amour dont vous avez besoin. Oh, vous avez pu agir différemment, avoir eu des sensations. De même, vous avez pu chanter ou parler en langue, ce qui est bien. Mais si cet amour divin n'est pas là, croyez-moi maintenant. Dites, Seigneur, mets dans mon cœur et dans mon âme la lumière de ton esprit, que je puisse t'aimer et t'honorer et posséder en mon cœur aujourd'hui cet amour divin qui m'emmènera dans cette terre quand mon dernier souffle me quittera. Pendant que nous prions, priez vous-même maintenant, priez à votre façon, demandez à Dieu de faire cela pour vous. Je vous aime, je vous aime. Toi, cher homme aux cheveux gris assis ici, qui a travaillé dur et élevé des petits-enfants, vous, pauvre vieille maman qui avez séché les larmes de leurs yeux, laissez-moi vous affirmer ceci, chère sœur, cela ne se passe pas comme ceci de l'autre côté. Je crois que c'est absolument dans la ligne, c'est simplement une dimension dans laquelle nous vivons. Maintenant, nous vivons simplement dans la corruption. Que ta volonté soit en moi, Seigneur, que ta volonté soit faite, priez pendant que nous prions ensemble. Avec respect, Seigneur, sur la base de ta parole et de ton Saint-Esprit, nous sommes si heureux de savoir d'où vient notre naissance. Nous sommes heureux d'être nés, non par la volonté de l'homme, ni par la volonté de la chair, mais par la volonté de Dieu. Et nous te prions aujourd'hui, Père, pour que ceux qui demandent une grâce de pardon, ton Esprit la leur accorde, Seigneur. Je ne peux pas le faire, je ne suis qu'un homme, un autre fils de Quiche, mais nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Ô Dieu, laisse-moi être comme Samuel, un homme qui proclame la vérité de la parole. Et jusqu'à maintenant, ô, tu as témoigné pour elle, je crois que tu continueras aussi longtemps que je te serai fidèle. Puissent-ils tous recevoir maintenant la vie éternelle, Père? Puissent-ils ne jamais oublier ce jour, et quand viendra l'heure pour eux de quitter ce monde, puisse ce que je viens de leur dire devenir une réalité. Et comme nous sommes ici, mortels, aujourd'hui, regardant notre montre, pensant à notre dîner, au travail de demain, des soucis et des charges de la vie, il n'y en aura pas là-bas, ils se dissiperont tous, il n'y aura pas d'ennui, une grande joie, l'éternité, donne-leur ce genre de vie, Père, à tous. Et je te demande aussi ceci, Père, que chaque personne qui est ici ce matin, qui m'a entendu raconter cette vision, que je puisse la rencontrer de l'autre côté. Bien qu'il puisse y avoir ici des hommes qui ne partagent pas mon avis et des femmes aussi, mais Père, permets que cela ne m'arrête jamais, que nous puissions les rencontrer de l'autre côté, et qu'ils courent, et que nous nous prenions par la main et crions « Notre bien-aimé frère », que ce soit tel que cela a été décrit ici, Seigneur, pour tout le monde, tous ceux que j'ai aimés et tous ceux qui m'ont aimé. Je prie pour qu'il en soit ainsi, Seigneur, et je les aime tous, qu'ils paraissent, Père, je leur offre la vie éternelle maintenant, puissent-ils faire ce qu'il faut pour l'accepter, car je le demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons quelques instants pour prier pour les malades. Je vois que nous avons une petite fille malade ici, et la dame dans la chaise. Maintenant, pour mes très chers frères, mes sœurs, je vous en prie, comprenez-moi bien, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais ô Dieu, quand je mourrai, laisse-moi retourner là. Laisse-moi simplement retourner à cet endroit où je veux être, où qu'il soit. Je n'essaye pas d'être un Paul qui a été transporté jusqu'au troisième ciel. Je ne dis pas cela. Je crois que le Seigneur essayait simplement de m'encourager, essayant de me donner un petit quelque chose pour me pousser dans le nouveau ministère où je m'engageais. Paraîtrait-il déplacé que je lise quelque chose ici pendant juste une minute? Serait-ce bien? Un des principaux magazines du monde parle au sujet de Billy Graham. Le docteur Billy Graham, invité chez les musulmans, en première page de African Times, 15 février 1960. L'auteur de l'article, qui est musulman, pense que les miracles devraient suivre la proclamation de l'évangile du Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous lisons ceci. Ceci est ce que le Christ a promis à ses adeptes. Quand il a dit, « Celui qui croit en moi, ce que je fais, il le fera aussi. Il fera même de plus grandes choses que moi. » L'Église a-t-elle jamais fait les choses que le Christ a accomplies dans la Bible? Peut-elle le faire aujourd'hui? N'importe quelle Église établie peut-elle faire la moitié des miracles accomplis par le Christ? Sans parler des choses plus grandes, pouvez-vous, en tant qu'un homme en renom, défenseur de la chrétienté, ressusciter un mort, pouvez-vous marcher sur la mer, pouvez-vous guérir les malades et rendre la vue à un aveugle? Beaucoup de l'article musulman est à l'évidence une série de mensonges. Il discrédite ce musulman, mais il avait raison. Voici ce que le rédacteur du journal a ajouté. La meilleure réponse est de lire la Bible et de connaître le Coran. Le Coran souffre de la comparaison. Les prétentions des mahométans surpassent le christianisme. Elles sont une pure extravagance. Néanmoins, l'auteur a touché un point vital concernant les miracles appartenant à l'Église. Mais là encore, nous doutons de la sincérité de l'auteur, car qui pourrait parler et douter des miracles accomplis par le révérend William Branham devant les musulmans en Afrique du Sud, quand 10 000 ont reçu Christ le Sauveur? Sous le ministère de William Branham à Durban en Afrique du Sud et ailleurs à travers le monde, ou de T.L. Osborne en Afrique de l'Est, naturellement, nous sommes 100% pour William Branham. Nous avons laissé un musulman exprimer un doute. Ce doute est sans valeur. Beaucoup pensent que nous sommes des fanatiques, que nous ne savons pas ce que nous faisons. Là, ils durent admettre dans leur propre journal que Dieu avait accompli ses miracles de toute façon. Dieu est autant Dieu aujourd'hui qu'il l'a toujours été. Vous ne pourriez pas penser qu'ils ne l'ont pas cru. Ils ont pu le voir. Ce n'est pas caché. Ce n'est pas fait dans un coin. Des centaines de milliers de gens assis le voient. Ils ont vu ce petit garçon infirme venir là et le Saint-Esprit lui parler de sa vie et des choses qui lui étaient arrivées. Et ils ont vu 10 000 musulmans s'étendre sur le sol et accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Il parle aussi de T.L. Osborne. Je crois que frère Osborne n'est pas encore allé parmi les musulmans. Ceux-ci prétendent qu'ils sont si prédominants, mais nous avons encore un Dieu qui peut sauver les brebis du lion, qui peut délivrer la brebis de l'ours, et cela m'a fait du bien qu'il l'ait écrit et reconnu. L'époque, l'équipe de Billy Graham s'est éloignée en tournant le dos en disant « Oh, l'époque des miracles est passée !» Les musulmans disent « Ah, toute la Bible est du passé !» Vous avez donc tous tort, vous adorez un homme qui est mort et son nom était Jésus. Et il est mort il y a de nombreuses années et il n'y a aucune preuve qu'il est ressuscité. Mais il ne pouvait pas dire cela à la réunion de Durban, car il était là, faisant les mêmes choses qu'il avait faites et les confirmant. Maintenant, les différentes églises doivent revenir à la parole. La personne qui m'a écrit et m'a dit que j'avais aligné mon enseignement sur la Bible doit être la même que celle qui a écrit cela dans leur journal. De toute façon, Dieu fera en sorte qu'il le loue. C'est vrai, il fera en sorte qu'il le loue de toute façon. Nous avons une petite fille malade assise ici. C'est votre enfant? Quel mal a-t-elle, ma sœur? Hémorragie cérébrale? Mère, il n'y a qu'une chose qui puisse sauver votre enfant. C'est Dieu, vous le savez? Êtes-vous allé prier pour elle, Ferneville? Depuis que le frère Neville est allé prier pour elle, elle a été mieux. Il y a encore des bergers qui connaissent la nourriture des brebis. Quel est votre mal, chère sœur, assise là dans votre chaise? Le vôtre? Le cancer? Bon, si je vous demande quelque chose à vous tous tout de suite, ceux présents ici qui ont été guéris du cancer, levez la main. Voyez, ma sœur, Dieu est celui qui guérit. Vous savez cela. Si je vous avais dit que je pouvais aller vers cette petite fille et arrêter son hémorragie et la guérir, je vous aurais menti, ou que je pouvais guérir la femme de son cancer. Mais je sais une chose, il y avait un ours, un cancer, une tumeur, une cécité, et même la mort qui avait saisi un jour des brebis de Dieu. Et je me suis avancé avec la puissance de Dieu, et j'ai tué l'ours, et j'ai ramené cette brebis. C'est vrai, nous avançons aujourd'hui, pas avec telle ou telle grande chose. Je m'avance avec une simple prière toute courte. Dieu va la guérir. Vous le croyez, n'est-ce pas, ma sœur? Vous le croyez également, n'est-ce pas, ma sœur? Maintenant, combien d'entre vous le croient de tout leur cœur? Maintenant, courbez la tête pendant que je vais prier. Voulez-vous lever la tête juste pour un moment? Le pasteur vient de me dire que ces personnes étaient très, très malades. Elles seront guéries. Tout va bien. Les promesses de Dieu se réalisent toujours. Nous nous en occupons. Il y a un service de baptême. Quelques personnes doivent y aller. Nous allons avoir un autre service ce soir. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne peut pas venir ce soir et qui voudrait que l'on prie pour lui maintenant? Qui ne peut pas être ici ce soir? Voulez-vous vous approcher? Alors, vous qui ne pouvez pas venir ce soir, j'aurai plus de temps pour prier ce soir. Ils doivent baptiser ces personnes. Maintenant, si vous voulez nous donner simplement une minute ou deux de plus, puis nous aurons le service de baptême. Je sais que vous voulez le voir. Et ceux qui désirent être baptisés ce matin, eh bien, vous les dames, vous allez changer vos vêtements et les hommes vont de ce côté. Et alors, pendant que je prie pour ces malades, vous pouvez vous préparer pour le service du baptême. Maintenant, ce soir, je vais essayer d'avoir pour beaucoup plus de temps pour la prière. Et ce soir, nous allons commencer par le premier livre des Éphésiens. Nous serons très heureux maintenant de vous avoir ici. Si vous n'avez aucune église où aller, mais si vous avez votre propre pasteur église, alors vous allez à votre chère église que vous soutenez. Si vous devez partir maintenant, que Dieu vous bénisse, revenez avec nous quand vous le pourrez. Nous serons heureux de vous avoir. Maintenant les autres, pendant que vous baissez la tête, nous voulons prier. Père, je te remercie aujourd'hui pour la fronde du petit berger, la prière qui a fait mettre le lion sur ses genoux et le petit agneau lui fut arraché et ramené à sa maman et à son papa. Je prie pour notre frère. Je te demande de le ramener à la santé également, Seigneur. Puisse sa tension baisser et les troubles de son corps cesser. Je te prie, Seigneur, bénis-le au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Que Dieu vous bénisse, frère. En descendant, je vois un autre petit garçon aveugle. J'aimerais ajouter quelque chose. Un jour, j'étais très malade. Je vomissais et je pensais. Je voudrais que vous compreniez bien ceci si vous pouvez. Je pensais, mon Dieu, je donnerais tout au monde si je pouvais entendre quelqu'un s'arrêter à la porte. et ma femme me dire « Billy, voici un vieux monsieur qui veut te voir. » Et alors, je verrais un petit bonhomme chauve avec des favoris gris autour de la figure entrer. Il entrerait et dirait « Vous êtes frère Branham ?» Je dirais « Oui, monsieur, c'est moi. Mon nom est Simon. » Il mettrait sa main sur moi. Il me regarderait une minute. Il dirait « Vous êtes un croyant, frère Branham. » « Oui, ce sera très bien. Simon Pierre de la Bible. » Combien j'aurais été heureux de cela. Il n'aurait pas eu grand-chose à dire. Juste mettre sa main sur moi. Cela aurait été très bien. Et alors, que se passe-t-il? Eh bien, avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, il y a des dizaines de milliers de gens qui croient la même chose si je vais vers eux. Et je pensais, alors Seigneur, laisse-moi gagner tous ceux que je pourrais. Laisse-moi simplement. Et je pensais, si Simon pouvait seulement venir ici, ou Paul, ou quelques-uns d'entre eux, entrer et dire, êtes-vous frère Branham? Oui. Mettre leurs mains sur moi, me regarder et me dire, très bien, frère Branham, et puis sortir, j'aurais été content, j'aurais été en parfaite guérison, certainement, mes amis, mon courage serait revenu aussitôt, j'aurais dit, je vais être très bien, oui monsieur, et il y a des gens qui croient la même chose aujourd'hui, et c'est ce que je suis venu faire ici, poser les mains sur vous et prier Dieu.